Alors, j'ai choisi de prolonger, de compléter le travail d'Élise que j'ai lu un peu à l'avance, en prenant quatre points, un peu dans le désordre. Je ne sais pas, je ne suis pas encore d'accord avec moi-même sur l'ordre dans lequel il faudrait que je les prenne, mais ce n'est pas grave. Je voudrais revenir sur la question de la domination, du paradigme de la domination. Je voudrais aussi poser la question de l'agentivité, qui me semble être quelque chose qui traverse le travail d'Élise, mais sans être tout à fait abordé vraiment comme ça. Troisième point, faire référence à un ouvrage qui utilise deux notions, celle d'acteur faible et d'institution compréhensive, et ça fera écho peut-être à des choses qu'on disait ce matin. Et puis revenir en dernier lieu très rapidement sur la question de la frontière ethnique et l'usage qu'on en a. À propos du paradigme de la domination qui est assez prégnant chez les sociologues, alors Élise parlait tout à l'heure de la domination du paradigme des classes sociales, on n'en est pas très loin. Je voulais simplement spécifier l'usage qu'on en a et l'usage qui en est fait dans ce texte, notamment autour de tous les exemples de terrain qu'elle donne. Le rapport de domination donc, qui traverse beaucoup de situations qu'on observe ne doit pas nous empêcher de décrire des relations sociales très complexes. Hein, c'est pas parce qu'on a dit qu'il y a un rapport de domination que finalement on a tout dit, bien au contraire. Je crois que dans chacune des situations qu'on observe, la contrainte qui pèse sur les personnes n'est jamais totale ni complètement écrasante. Elle pèse par exemple, et on le voit ici, en limitant le répertoire des actions possibles de ces femmes qui agissent, mais qui vont agir de façon discrète ou en se conformant à des règles plus ou moins explicites qui leur sont imposées en tant que migrantes ou en tant que femmes dans le monde social qui est le leur. Donc, rapport asymétrique, forme plus ou moins subtile de catégorisation, assignation à des identités dévalorisées ou réductrices, tout ça, de fait, on le voit, mais ça n'empêche pas ces femmes d'être par ailleurs régulièrement interpellées comme des sujets et des membres de la société. C'est ce que font régulièrement les professionnels du travail social, les institutions, qui, tout en les reconnaissant comme sujets, leur reprochent finalement, peut-être implicitement, de ne pas être à la hauteur de cette reconnaissance, parce qu'elles ne maîtrisent pas assez la langue, parce que leurs revenus sont trop faibles, ou parce qu'elles seraient soumises à leur culture, ou au rapport de genre supposé typique de cette culture. Voilà, on a cette complexité. Ce que je voulais simplement dire, c'est que la contrainte, le fait d'identifier, quand on observe les situations, d'identifier cette contrainte ne doit pas nous empêcher, nous, de voir comment ces personnes agissent et voir plutôt, essayer de creuser en essayant de saisir où et comment cette contrainte, sur quoi pèse précisément cette contrainte. Je pense par exemple au contenu des actions entreprises. Et là, on voit bien dans les exemples pris par Élise tout à l'heure, ou dans son texte, parce qu'elle a dû sélectionner, on voit que d'un côté, ces personnes choisissent d'agir en tant que femmes, en jouant sur la fibre égalitariste des institutions et des professionnels du travail social, qui, quand on leur propose une action de femme, ben, vont souvent être favorables à cette action parce que justement, étant féminine, elle va être lue par le majoritaire, par ces institutions comme une activité qui va être émancipatrice de la domination masculine. C'est ce registre féminin, pour ne pas dire féministe, qui va rendre la voix de ces femmes audible. Si elle présente, comme j'ai pu le voir moi-même sur le terrain, une activité ou c'est en tant que migrante ou en tant que sénégalaise qu'on veut faire ça, et voilà, du coup, le soupçon du communautarisme va tout de suite pointer son nez. et délégitimer une activité qui a été presque la même et présentée en tant qu'activité de femme. Donc ça nous renvoie, nous, à nos catégories aussi. Qu'est-ce qui est émancipateur? Qu'est-ce qui renvoie à l'égalité? Qu'est-ce qui est démocratique? Voilà, toutes ces valeurs, finalement, qu'on met en œuvre et puis qui parfois subissent des... on tranche parfois en faveur de certaines activités parce que ça nous semble plus émancipateur ou moins. Alors que... dans le texte là, les femmes quand elles proposent une fête pour inviter des travailleurs sociaux là, et d'autres femmes, on voit bien qu'au fond, en discutant avec elles, leur rôle, au fond d'elles-mêmes, certes elles font une fête entre femmes, mais il ne s'agit pas du tout de remettre en cause les rapports de genre, au contraire elles les réaffirment plutôt, elles ne veulent pas toucher aux prérogatives de leur mari. Ni à la stabilité des relations conjugales, affaires qui leur semblent plutôt personnelles et privées que politiques. Leur action vise tout autre chose. Il s'agit d'améliorer les représentations qu'elles craignent négatives, des représentations genrées et ethniques croisées, mélangées, représentations que les travailleurs sociaux se font d'elles. Et du coup, elles s'adressent directement aux professionnels en se montrant compétentes, lucide et critique aussi face à une situation asymétrique où, elles savent qu'elles sont en position de faiblesse, mais elles montrent aussi qu'elles en comprennent les mécanismes et qu'elles tranchent à leur manière dans cette situation. Le rapport de domination, il s'exprime aussi donc par des pratiques de consentement, on pourrait dire pratiques, hein, la manière de consentir, d'accepter, de passer par le chemin que vous propose l'autre. Mais il y a aussi des moments où on sent que face à ces... En même temps, peut-être simultanément avec... peut-être que l'exemple que vous donnez tout à l'heure des femmes qui sortent leur papier au final, qui détournent un peu la situation, il y a comme de temps en temps, et peut-être assez souvent, une sorte de non-adhésion mentale où elles s'échappent finalement par l'esprit, elles parviennent à montrer qu'elles n'adhèrent pas forcément aux visions majoritaires et encore moins aux catégories qui les assignent dans des identités réductrices. Donc je pense qu'il faut être, et le travail d'Élise Lay, il faut être fin pour voir à la fois les pratiques de consentement et en même temps imbriquer les formes de résistance ou de retournement imaginé ou imaginaire, c'est-à-dire la manière dont dans le discursif, dans des discussions, dans des blagues, par exemple, moi je l'ai aussi trouvé souvent sur mon terrain, il y a des formes de résistance douce ou passive, on pourrait dire, qui dévoile certains mécanismes et qui montre que les minoritaires ne sont pas dupes et qu'elles savent déployer avec des petits moyens, mais vraiment des façons de transformer les représentations et leur situation. Donc, juste pour terminer sur cette question de la domination, j'avais dit que j'avais 4 points et j'en ai fait 4, je vais aller vite après. Je pense qu'il faut vraiment être dans nos postures, soit de recherche, mais aussi, pas seulement les chercheurs, de tous ceux qui essayent de comprendre. Il faut toujours faire le pari de la réversibilité des relations asymétriques qu'on observe. C'est-à-dire que, oui, ce paradigme de la domination, il est fort et éclairant, mais oui aussi de regarder comment les situations peuvent être réversibles et comment comprendre ce qui empêche l'acteur ou ce qui au contraire lui permet d'agir, c'est assez intéressant. Justement, dans la foulée de ce qui permet d'agir, la notion d'agentivité, moi que j'utilise assez souvent, peut-être plus que la notion d'autonomie qu'on a entendue à plusieurs reprises, ou de marge de liberté qu'utilise Élise, c'est une notion qui permet de contrebalancer ce rapport de domination et qui désigne justement l'expérience d'être l'auteur de, l'expérience de celui ou celle qui contrôle ses propres actes plutôt que d'y être soumis par une injonction extérieure. En psychologie, l'agentivité renvoie au fait d'éprouver la conscience d'agir, de se sentir responsable de ses actes Et ça rejoint, je crois, l'usage qu'en font un certain nombre de sociologues, je pense, qui disent par là, la façon la plus neutre, c'est ce qui est actif, ce qui exerce un pouvoir, mais certains parlent du faire social, tout simplement, la capacité à agir, la capacité à transformer, à maîtriser le monde autour de soi. Bref, ça s'oppose à l'idée de passivité ou d'impuissance de celui qui est davantage agi par les situations ou les individus qui l'entourent. Moi, l'intérêt de ce concept, je pense qu'il vient du fait qu'on peut ainsi décrire des situations de façon plus dynamique, en combinant toutes sortes des échelles d'analyse et aussi des différentes formes d'asymétrie sociale. Et on serait tenté de considérer, puisqu'on est, on observe des rapports de pouvoir, penser que l'agentivité est vraiment la caractéristique du majoritaire, du fait de sa position favorable, de sa capacité, de son pouvoir de nommer. On parlait de ça ce matin, là, comment on nomme. Il dispose souvent du pouvoir de nommer l'autre, de catégoriser, et donc d'entretenir fortement la frontière sociale et ethnique. Pourtant, un certain nombre de chercheurs, notamment des féministes, pensent à Charlotte Norman ou Judith Butler, qui disent que la gentilité désignerait au contraire la puissance d'agir que le minoritaire tire de sa dépendance fondamentale à l'autre. C'est-à-dire la situation minoritaire serait une situation de moindre pouvoir, certes, d'asymétrie, de domination, mais cette vulnérabilité pourrait être la condition de possibilité de la maximisation de la puissance d'agir et de ce qu'ils appellent l'empowerment. Enfin voilà, on peut puiser, il ne faut pas négliger ces situations de vulnérabilité et voir dans quelle mesure, parfois, mais pas toujours, elles nourrissent aussi la résistance et de l'action. Je vais peut-être m'arrêter là.
Si tu peux, ce serait bien. Si on veut avoir le temps d'avoir une ou deux questions, en sachant que cet après-midi, on a un moment plus long pour échanger, donc si on ne peut pas tout faire, mais tu conclus là-dessus ?
Oui, peut-être juste...
Sur la frontière, quand même, puisque c'était...
Moi, j'aurais préféré, juste la notion d'institution compréhensive, qui, je pense, est assez utile, qui renvoie aux tensions dont vous parliez ce matin, parce que moi, ce qui m'a semblé... c'est que la tension, elle est moins, finalement, j'ai l'impression que, en tout cas, elle paraissait moindre ce matin, là, dans nos discussions, entre les tenants des valeurs républicaines, les institutions, etc., et la population diverse et variée, les populations cibles, on va dire, de ces politiques, qu'à l'intérieur des institutions et des professionnels, qui sont tiraillés entre comment être compréhensif ou non, comment être interculturel ou non, ou si, le faut-il pas, à quel moment on passe de l'interculturel au communautarisme, enfin, voilà. Ce genre de tension, il me semble qu'elle est à l'interne très très forte, elle met d'ailleurs en porte-à-faux bien des professionnels qui cherchent à aller au-delà d'institutions parfois qui ne comprennent pas forcément ce qu'ils rencontrent sur le terrain, ou qui, voilà. Sur les questions ethniques, c'est très fort, l'interdit, la censure qu'il y a sur la question de l'ethnicité, et en même temps, comment c'est omniprésent dans les catégories. Donc il y a des gens qui sont comme ça, qui vivent la tension intérieurement très très fort, et je pense que les travaux de Jean-Paul Payet, Denis Laforgue et Giuliani, je ne sais plus son prénom.
Frédéric Elsa.
Je pense que la manière dont ils essayent de penser ces institutions sur le mode de plus ou moins compréhensif, comment et quelles pratiques sont mises en œuvre et dont vous incarnez peut-être finalement voilà. C'est dire aussi que les choses se travaillent de part et d'autre, et du coup quand on de raisonner avec une frontière qui serait comme ça, bien sûr elle n'est pas immuable, on le sait, mais on continue de fonctionner les migrants d'un côté, les institutions de l'autre, il faut concevoir je pense la porosité de cette frontière, y compris par exemple d'arriver à avoir des professionnels, à envisager, analyser l'action de professionnels qui vivent une précarité aussi dans leur travail, qui mériterait à être abordée avec la précarité que vivent les populations, essayer d'avoir un regard sur une expérience commune que ces gens peuvent avoir de part et d'autre de ce qu'on perçoit d'emblée comme une frontière ethnique.